Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et à côté, bah, je suis en train de financer ce nouveau projet en disant bah, directement, dès qu'on aura financé, donc sous 6-9 mois, bah, moi je prends 2500 euros net. Il n'y a plus de SMIC, il n'y a plus rien, on se respecte. Et même au final, ce que j'ai compris, pour ceux qui nous écoutent, peut-être ça leur paraîtra logique. Tu vois, un investisseur, tout ça, mais ça, quand tu es jeune, moi je ne l'avais pas compris. En fait, il veut que tu te payes correctement.
Bah oui.
Parce qu'il veut que tu mènes ta barque correctement, justement, que tu sois full sur le projet, concentré.
Tu prennes soin de toi.
Exactement,
avant tout.
Tu prennes soin de toi. Que tu as besoin d'aller chez l'ostéo, chez machin, chez bidule, bah, tu puisses y aller. Voilà. Mais ça, tu vois, quand.
Tu besoin de beaucoup d'ostéo quand tu es entrepreneur.
Ouais, peut-être. Ouais. Ostéo et plein d'autres choses.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Morgane. Salut Morgane.
Salut Fab.
Tu me disais que juste avant qu'on enregistre là, tu me disais, écoute, moi j'ai pas de problème à parler de mon masochisme d'entrepreneur. J'étais là, bon, pas très bien. Allez, on part. On va enregistrer. On va aller là-dessus. Tu considères que t'es masochiste?
Je sais pas si je l'étais à la base, tu vois, mais après 8 ans d'entrepreneuriat. Et en adorant ça, tu vois, en créer des concepts, ce genre de choses, tu te dis, putain, quand tu compares à tes potes ou à des gens qui sont salariés, tout ça, tu vois, qui sont dans une voie un peu tracée, ouais, et sécuritaire, toi, t'es là, tu te dis, putain, on est maso quand même, enfin, par rapport à ce qu'on fait, tu pars de rien, tu montes des choses parfois innovantes, enfin, on peut en parler. Tu finances tes projets, tu vas chercher de l'argent, des fois, tu te payes pas. Tu te payes mal. Mais au fond, parce que j'ai compris que ça me correspondait, tu vois, bah, moi j'adore ce que je fais, tu vois. J'adore ce que je fais. Mais du coup, tu dois accepter la partie derrière que bah, niveau argent, niveau finance personnelle, bah, c'est pas comme les autres. Au début, en tout cas, tu vois. Et il y a une part, je pense, de qu'on aime se faire mal, tu vois. On aime beaucoup bosser. Tu l'as été aussi, je pense, avec Mademoiselle, etc.
Dis pas on dit je.
Je,
oui, j'aime beaucoup bosser.
En tout cas, j'ai partagé ça avec pas mal de personnes.
Ouais,
tu vois, voilà. Mais j'aime beaucoup bosser, j'aime prendre ces risques-là.
Mais il y a des entrepreneurs qui sont pas dans cet état d'esprit-là.
Exactement.
C'est pour ça que j'aime bien que tu parles de toi. Allez. Pour commencer.
Bon, on va faire ça.
Merci Morgane. Donc tu as 28 ans.
Ouais.
Et tu as fait ça. Donc tu disais que tu es entrepreneur depuis 8 ans. Et globalement, ce que tu me disais dans ton mail, c'est que tu as fait ça toute ta vie. Quoi. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu de travail salarié dans ta life.
Que des stages. Que des stages salariés, si on veut dire. Ouais, non, j'ai fait une école d'ingé.
Okay.
L'INSA Lyon, pour la cité, en génie mécanique, très cool. Je me suis bien éclaté, mais au final, j'ai jamais fait d'ingénierie, tu vois. J'ai eu le virus avec un ami, on a monté une première boîte.
Le virus.
Le virus entrepreneurial, parce que moi, je le considère vraiment comme ça, tu vois. Partagé, justement, avec pas mal d'amis entrepreneurs.
Ouais. En fait, d'où il vient ce virus ?
Aucune idée. Aucune idée. J'ai des parents classe moyenne, tu vois, ouvriers, fonction publique, etc. Qui m'ont toujours accompagné, toujours aidé, etc. On a toujours eu ce qu'on voulait avec mon frère, mon petit frère.
On va en parler.
Mais par contre, voilà, nos relations à l'argent assez basiques, enfin, pas d'investissement, tu vois, pas de stratégie financière dans la famille. Par contre, je me suis très vite émancipé, je sais pas, dans je vais faire ingénieur, je vais faire ça comme ça, voilà. Vous inquiétez pas, papa, maman, ça va se passer, tu vois. Enfin.
Ok. C'était pour être libre alors.
Ouais, je sais pas. Moi, j'aimais les voitures, tu vois. Et du coup, j'ai dit depuis le petit, je vais construire des voitures. Tu vois, je vais être ingénieur auto. Je sais pas, je vais les dessiner, je vais les fabriquer, j'en sais rien. Et j'ai fini par justement aller à l'INSA, faire génie méca, mais ensuite pas les fabriquer, mais les faire fabriquer avec un associé. On a monté une école de pilotage automobile. Voilà, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais dès qu'on était étudiant, on a eu cette idée folle de faire rouler des gens dans des voitures des années 60, vintage, avec tout l'esprit, tu vois, en termes de décor, de tenue, de musique, okay, sur un circuit automobile, bref, un vrai concept.
Revival, quoi.
Ouais, revival, immersif, et qui a bien marché par la suite. Enfin, bien marché pour les clients, après on va parler d'argent, c'est plus compliqué. Et ouais, volonté d'être libre, volonté de créer, je pense, plus qu'autre chose. Tu vois, esprit très créatif, j'ai fait beaucoup de musique. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Aujourd'hui, après 8 ans, j'ai fait... comme je te disais en off, un peu d'introspection. Et vraiment, j'ai cette âme un peu d'artiste, mais business. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien créer des choses, tu vois, m'exprimer au travers de la création de société, de la création de concepts surtout, tu vois, de concepts de divertissement, plus particulièrement dans mon cas. Et voilà, ouais, ça vient de je ne sais où, Mais en tout cas, c'est ce qui me correspond.
C'est la liberté, alors, plutôt.
Ouais, plus la liberté que la quête d'argent pure. Je pense que si j'avais voulu faire de l'argent au sens propre du terme, il y a soit d'autres business, soit d'autres carrières, finance, médecine, etc., qui t'assurent des revenus beaucoup plus confortables que ce que j'ai fait moi. Après, comme tu le disais aussi, il y a différents types d'entrepreneurs, différents types de boîtes.
Et différents moments de vie aussi.
Ouais.
Je crois que j'ai été beaucoup plus dans ton état d'esprit aujourd'hui que je le suis moi. Et en fait, ça dépend des... Que je le suis moi aujourd'hui, pardon. Où je me dis que c'était pas vraiment... On n'a pas vraiment la même quête à 28 ans qu'à 46, quoi. Et heureusement, je crois que c'est quand même bien évolué, quoi.
Ouais, je pense que moi, je suis encore dans une phase... où j'ai pas de famille, tu vois, j'ai pas encore ce côté-là. Et j'aime cette liberté, tu vois. Enfin, des fois, tu te fixes des choses dans ta vie, tu te dis... Et là, moi, je me dis, bon, jusqu'à 30 ans, je me laisse encore le temps de faire des conneries, tu vois, enfin, de monter des nouveaux trucs, de voir un petit peu ce qui va marcher. Parce qu'au final, bah, quand t'entreprends, t'as des succès, t'as des échecs. Y a eu le Covid au milieu, on va peut-être en parler, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais du coup... Ouais, j'ai cette quête de liberté, de créativité et de dire on n'a qu'une vie, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai ce côté-là de... Bah, il y a plein de gens, ça paraît très cliché et caricatural, mais il y a plein de gens qui souffrent et qui n'ont pas cette chance-là, tu vois. Et en plus, je suis un homme blanc, tu vois, qui a fait des études, etc. Enfin, pas aisé de base, mais en tout cas, j'ai l'archétype, si tu veux, de la personne qui a réussi dans le cliché de la société, entre guillemets, tu vois. Et donc, bah, autant en profiter. Enfin, je veux dire, c'est con à dire, mais entreprends, on fait des choses, tu vois, si c'est ce qui te correspond. Là, je me parle à moi-même, et voilà, quoi.
Merci.
Sois libre.
Donc, t'as un peu la sensation que, quand tu dis c'est maso, est-ce que t'as la sensation derrière que le travail, c'est un peu... Il faut que ce soit difficile, c'est ça?
Je pense que ce qui n'est facile... Bah, enfin, si c'était facile, tout le monde le ferait, tu vois. Dans le sens où... quand tu es dans mon cas, dans ce qu'on a fait avec mes associés, tout ça, on a souvent été, ou quasiment toujours, un peu dans l'innovation, tu sais, créer de nouvelles choses, tu vois, c'est cette notion que je te parle depuis tout à l'heure de créativité et tout ça, un peu comme un artiste qui crée une nouvelle toile, un nouveau film, etc. Il y a cette notion de créer. Et quand tu fais ça, bah, t'es pas spécialement sur des sentiers qui sont battus, quoi, tu vois, t'es un peu hors sentier, t'essayes de faire autre chose, de disrupter, entre guillemets, des fois des
industries. Ce gros mot, putain.
Ce gros mot, ouais, c'est ce qui est pas tout le temps vrai, attention, hein, mais en tout cas ou petit à petit de faire changer les choses, voilà, au niveau de ton business, tu fais les choses différemment. Et quand tu fais ça, bah, c'est généralement pas facile parce que, tu vois, t'es dans des modèles que des banquiers connaissent moins, pareil, des investisseurs, des clients connaissent moins, tu vois, des collaborateurs connaissent moins. Et du coup, il y a une notion de il faut prouver, tu vois, il faut prouver. Mais au final, t'aimes ça parce que tu sais que derrière, il y a une sorte de récompense parce que si tu fais les choses différemment, c'est peut-être parce que t'as envie d'avoir une meilleure expérience client. Enfin, on peut rentrer dans des sujets, tu vois.
Au final, j'aime ça.
Ben, au final, voilà, j'aime.
Pardon, j'aime bien que tu parles. En fait, ça me trigger un peu quand mes invités, ils parlent d'eux sans dire je, parce que, en fait, c'est, non mais, en fait, je sais qu'il y a des gens qui me le reprochent parfois dans les commentaires de reprendre, mais je trouve ça hyper important de parler de soi.
Tu vois. Reprendre.
Et c'est une façon, et je te dis ça parce que je l'ai beaucoup fait, où, c'est une façon de sortir ce que tu penses de toi, alors qu'en fait fondamentalement c'est hyper important de parler de Dieu, tu vois, de toi, parce que je crois que quand tu dis tu, t'es en train de parler de toi fondamentalement.
J'aime ça alors.
Ouais, merci.
Et donc, pardon, je te reprends, mais j'aime la difficulté.
C'est pas juste pour te faire chier, c'est juste que j'aime bien que les gens parlent d'eux dans ce podcast, tu vois.
Voilà. Bah, j'aime la difficulté.
Voilà.
Sans
merci.
Problème.
Oui.
J'aime ça.
Mais alors ce que je voulais dire, c'est est-ce que t'as grandi, mais bon, on va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on lance l'interview. La première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en premier lieu?
On en a parlé, liberté.
Ok.
Moi, c'est le premier truc, c'est...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est le fait de... Comme je l'ai dit là dans les dernières minutes, j'ai toujours eu ce que je voulais. Mais mon esprit créatif, tu vois, est tellement présent que j'ai envie de créer plein de choses. Et pour moi, avoir de l'argent, après, ça dépend la quantité, tu vois, mais déjà, un revenu qui peut être confortable, on va dire entre 3 et 4 000 euros net par mois, pour faire ce que tu veux déjà et te focus sur des nouvelles boîtes, ton aventure, etc., sans stresser trop. Et ensuite, avoir de l'argent, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers ou millions, on peut en parler, pour justement créer des projets, parce qu'au final, t'en as pas besoin. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, tu vois, d'avoir 5 millions sur mon compte à un moment, ça servira à quoi? À part...
Mais il y a des gens pour qui c'est important d'avoir 5 millions sur leur compte.
Mais pas moi, parce que tu me dis de parler de moi.
Ouais.
Moi, ça sera important pour créer des projets, tu vois, pour faire le bien, pour... Tu vois, moi, j'ai peut-être le rêve de faire un festival de musique un jour, ce genre de choses, de faire de la charité. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, tiens, c'est tellement difficile, pour reboucler par rapport à l'entrepreneuriat, c'est tellement difficile de faire ce qu'on fait que tu réfléchis au niveau du nombre de parts que tu as, du capital, du potentiel des boîtes que tu montes pour dire, bon, si ça marche, tu vois... Bah, un jour peut-être, tu vois, sans que ça soit le, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, sans que ça soit le Graal, bah peut-être que j'aurai un beau chèque, tu vois. Et ce chèque, en fait, ça sera pas pour moi pour m'acheter des belles voitures, même si j'aime ça, etc. Ça sera surtout pour dire, tiens, là maintenant j'ai la liberté, je n'ai plus de contraintes, si tu veux, pour m'exprimer, pour faire un petit peu ce que je veux, parce que bah, une fois que tu as cet argent-là, si on parle par exemple de 1 million, 2 millions, 3 millions, etc., tu te dis, bon, bah, je peux en placer une partie, je peux derrière faire levier dessus, avec de la dette et tout ça, et donc créer des projets, faire le bien autour de toi, et ne plus te soucier de ça, et embrasser la difficulté, parce qu'au final, si tu vends une boîte, moi je ne l'ai pas fait, enfin, j'ai pas fait dans le sens avec succès, j'ai pas gagné des millions. À la fin, quand t'es entrepreneur. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand
c'est un succès, c'est pas forcément. Enfin, vendre une boîte, déjà, je trouve que c'est incroyable.
Alors, j'ai pas vendu de boîte au sens. J'ai cédé mes parts.
Ouais.
Mais j'ai pas vendu. On n'a pas vendu à quelqu'un d'autre extérieur qui a racheté la boîte.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as l'air de dire que pour vendre une boîte, il faut forcément que ce soit des millions. Avec succès, en tout cas, pour vendre une boîte avec succès, pardon.
Alors, non, je me suis peut-être mal exprimé, ouais. Mais,
non, mais en plus, t'aurais le droit. Hein.
Ouais. Mais chacun a sa définition du succès. Moi, déjà, tu vois, si je suis heureux, que j'ai assez de revenus par mois, tu vois, et que je m'éclate dans mon job, tout ça, enfin, j'ai vachement changé par rapport à quelques années où t'es peut-être plus jeune, plus fougueux, où t'as envie justement de faire des millions et tout ça, de dire, ouais. Startup Nation, let's go.
T'en es un peu revenu de tout ça?
Ouais.
Ok.
Bah, j'ai liquidé ma dernière boîte, tu vois.
On va en parler.
On peut en parler, mais du coup, ça te met une leçon d'humilité de se dire, tiens, voilà, j'ai joué à un jeu qui était peut-être pas le mien, qui fait que, bah, quelles étaient mes vraies motivations et tout ça. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que le projet, l'impact, etc., c'est beaucoup plus important pour moi.
Ok.
Mais par contre, pour rentrer un peu dans le sujet, après je te laisse rebondir dessus, enfin en fonction de ce dont tu veux
merci
parler.
Merci de me laisser rebondir.
c'est ton podcast.
T'es sympa.
Ouais, je suis top. T'as vu ça, c'est vraiment là, il fait beau, on est à Paris, tout va bien. Non, j'allais dire que les projets que j'ai fait avant, je me suis souvent mal payé, tu vois. C'est souvent l'entrepreneur qui se sacrifie, tu sais, de dire. Ah non, il faut pas toucher dans la caisse, il faut privilégier les autres, etc. Et donc ça je le ferai plus, tu vois. Enfin, en tout cas, je ferai différemment.
Ok.
Parce que ça m'a trop peiné. T'es là, tu te dis, paye le SMIC, tu galères, toi tu emploies des devs, des machins, des trucs, tu vois, tu payes le prix, entre guillemets, tu vois, du marché. Mais t'as fait un plan de financement et de trésorerie, tu vois, où toi, en fait, t'es le dernier des... Dernier des cons, entre guillemets. Et à la fin...
Et tu vois, là, par exemple, si tu disais, en fait, bah, j'ai fait un plan, machin, machin, et en fait, à la fin, je suis le dernier des cons, je trouve que ça te responsabilise encore plus à ce moment-là.
Bah, je suis le dernier des cons, ouais. J'ai été, et je ne veux plus le refaire.
Ouais.
Parce que tu vois,
Attends, je me permets juste de dire, tu vois à quel point c'est vachement plus puissant de venir dire, à ce moment-là, putain, en fait, j'ai fait tout ça... Et à la fin, je me rends compte que je suis le dernier des cons, plutôt que de dire, ah bah tu vois, tu fais un plan, machin, et puis en fait, à la fin, t'es le dernier des cons. Tu comprends
on
pas
va, On va essayer, je vais essayer.
L'impact, on va essayer.
Je vais essayer. C'est dur, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Je sais que c'est dur. C'est pour ça que je me permets d'insister. Parce que, encore une fois, dans ce podcast, moi, je veux avoir des gens qui parlent d'eux. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant de venir prendre la responsabilité de ces trucs, plutôt que de venir dire, bah tu vois, tu fais ceci, tu fais cela. Non, en fait, j'ai... Bah oui, j'ai liquidé ma boîte, je me suis pas payé, enfin c'est parce que oui, quelque part il y a un vrai truc de maltraitance envers soi quand on se paye pas, tu vois.
Je pense que c'est lié aussi à une sorte d'ignorance peut-être, tu vois, ou de
martingale peut-être, non? C'est-à-dire que tu te dis, OK, je prends pas un chèque de 1000 là aujourd'hui ou de 2000 pour me dire qu'en fait ce chèque de 2000 peut-être que dans 5 ans, il vaudra...
C'est ça, ouais. Il y a ça, plus le fait de... Des fois, je me suis rendu compte que tu peux pas faire les choses toute seule. Tout seul, pardon. Je peux pas faire le marketing, le dev, ça. Donc, par rapport au projet que j'ai souhaité monter, bah, tu te dis, OK, il faut du monde. Ce monde coûte cher. Tu dois les payer. Je dois les payer. Enfin, parce qu'on était deux quand même, dans l'association. Et moi, je passe en dernier. Sauf que ça, si tu le prends comme je l'ai fait, à se dire, bah, je me paye le SMIC, pas de fioritures, on se débrouille, tu vois. Après, quand t'as une copine, les charges, tout.
Ça coûte cher la copine.
Non. Il n'y avait pas de souci avec
c'est
ça.
C'est marrant que tu la mettes en premier. Tu sais, c'est comme si tu avais dit, putain, j'ai des enfants.
Non, mais je dis ça parce que ça... Là, on n'est plus ensemble, on est un très bon terme, tu vois, mais le fait de toujours être stressé par rapport à ma rémunération et à l'argent que je faisais rentrer tous les mois, ça a été un sujet de distension, tu vois, un petit peu dans le couple et tout ça, les vacances, les machins, les dépenses, toujours être un peu à parler de ça, à venir... si tu veux gratter 20 euros par-ci, 30 euros dans le sens économiser, tu vois, on va dire je vais pas les dépenser, je vais pas machin, et au final tu te flagelles tellement, enfin je me flagelle tellement sur la vie que moi ça m'en a peiné, tu vois. Et aujourd'hui c'est pour ça que je te dis que je ne veux plus faire la même chose. Certes je repars dans un projet qui est innovant et qui a besoin de fonds et tout ça, mais c'est fini le SMIC, quoi, tu vois, c'est fini les petits salaires ou les trucs où tu te dis je passe pas en dernier.
Ok. Qu'est-ce qui t'a fait switcher?
Je pense que c'est très lié à la...
Est-ce que t'as un déclic à un moment ou alors c'est venu petit à petit?
Je pense que c'est lié à ce que je viens de te dire. Donc là, on parle d'une période où on est en début 2023. Il y a un an. Donc notre boîte était sur le point de fonctionner, mais on se... prend, si tu veux, dans la face un peu la crise du financement du monde de la tech, des startups et tout ça. Donc, il y a eu un peu un vent de panique fin 2022 qui a fait que plein d'investisseurs se sont un peu retirés du marché ou en tout cas ont freiné leurs investissements. Nous, on avait besoin de ça pour continuer. Et on a deux gros, en fait, si tu veux, qui se sont retirés, qui ont fait un peu tomber les petits et on s'est retrouvé à devoir liquider la boîte.
Ok, donc vous étiez en période de levée de fonds, c'est ça?
Exactement.
Pour expliquer un petit peu, enfin, en tout cas, j'imagine.
C'est exactement ça, ouais.
Vous alliez chercher de l'argent auprès d'investisseurs et que, en fait, il y a une sorte de bulle.
Un peu,
La bulle, c'est un peu tendue, en tout cas, et notamment par rapport à la guerre, etc., en Ukraine, quoi.
Silicon Valley Bank, pour ceux qui ont suivi, donc faillite d'une grosse banque aux États-Unis, FTX dans la crypto, justement, qui avait détourné des fonds de milliers ou millions d'utilisateurs. Enfin, tout ça, en fait, ça a créé un vent de panique par les investisseurs qui se sont dit « Ouh là là, on a peut-être fait un peu de la merde, en gros, on a peut-être un peu surinvesti sur des valorisations d'entreprise, donc payer le prix fort pour être là et battre les copains investisseurs. Ouais. » Sauf qu'après, à un moment, ils se sont dit « on a peut-être fait des bêtises, donc là, on va freiner.
Okay. »
Et nous, on était là « on a ce projet, tac, on a déjà levé des fonds, il faut qu'on continue. Maintenant, on a besoin de temps pour continuer, ce qui est classique dans plein de projets. » Sauf qu'au final, c'était « Non, on a peut-être pas été assez bon. J'ai peut-être pas été assez bon. » Mais il y a les deux, y a les deux cas, quoi. Enfin, c'est bipartite, disons.
Et donc, vous êtes retrouvé à liquider cette boîte.
C'est ça.
Comment t'as vécu cette liquidation?
Très mal, mais je m'y étais quand même préparé. C'est-à-dire que je savais depuis le début que de toute façon, si on ne levait pas cet argent-là, il n'y avait pas possibilité de continuer. Parce qu'on était dans le jeu vidéo, pour être dans les détails, un jeu, ça prend du temps à développer et tu ne fais pas rentrer d'argent avant d'avoir fini ton dev. Quoi. C'est comme une usine, tant qu'elle n'est pas sortie de terre, tu ne sors pas de produit. Voilà. Donc si l'investissement n'est pas fini, il n'y a rien qui sort. Mais là, c'était pareil. Et je m'étais préparé à ça. Et j'étais même là en me disant, bon, c'est pas grave, on va liquider. J'avais déjà préparé d'autres business, d'autres trucs. Je me disais, tiens, je repars vite. Mes fesses, hein. T'es là, tu te dis après, putain, excusez-moi les grossièretés, mais t'es perte d'identité, quoi. T'es en perte d'identité. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Donc, j'ai eu la chance d'être soutenu ensuite par une asso qui s'appelle 60 000 rebonds, justement, qui aide les entrepreneurs à rebondir, qui était super, tu vois, avec l'accompagnement psy, coach, des parrains, des pères, tu vois, qui ont liquidé aussi. Et toutes les histoires sont pas sales, tu vois. Moi, j'ai pas eu de caution personnelle, par exemple, tu vois, sur des prêts bancaires. J'ai pas été endetté. Par contre, j'avais une situation financière qui n'est toujours pas ouf, tu vois, en termes de patrimoine. Et juste pour reboucler par rapport à ta question du déclic, je pense que ce moment-là, lié après à la séparation avec mon ex, qui était justement un peu exacerbé par ces problèmes d'argent, mais en tout cas de j'étais stressé par ça, tu vois, le lever de fonds, tu te dis, tiens, si je lève des fonds, je peux mieux me payer et tout ça, mais du coup, c'est pas arrivé, donc tu fais miroiter quelque chose à toi-même, j'ai fait miroiter quelque chose à moi-même, pardon, et à elle, et à même des proches et tout ça, de dire, ça va passer ou ce genre de choses et ma vie va un peu évoluer, tu vois, je serai un peu moins galérien, même si on aime ça, hein, comme on l'a dit au début.
Bah, en tout cas, tu aimes ça.
Ouais, j'aime ça, c'est vrai. J'aime ça et voilà, merci. C'est très, très chelou de le dire comme ça.
Mais merci. Bien sûr que c'est chelou de le dire comme ça.
Mais moi, je l'assume sans problème, tu vois. Sinon, qu'est-ce que je foutrais à entreprendre tellement c'est dur, tu vois. Moi, j'aime ça et j'ai pas envie de faire autre chose, tu vois.
Mais
c'est ma version, en tout cas.
En fait, je comprends, mais si tu veux, comment dire, mais on va y revenir parce que je me demande un petit peu d'où vient ce truc de j'ai besoin de galérer pour entreprendre, parce que j'ai un peu l'impression que tu associes les deux. Et non, mais je crois, enfin, en tout cas, t'as beaucoup dit, t'as commencé en disant que t'étais maso et tout, tu vois, donc en tout cas, t'as commencé en disant on est maso. Et en fait, ouais, je me demandais un petit peu d'où venait ce rapport entre ok, en fait, entreprendre c'est difficile. Franchement, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui racontent qu'entreprendre c'est difficile, mais ils en font pas un truc, tu vois. Là, depuis tout à l'heure, t'en parles beaucoup. C'est dur, tu vois. T'as besoin de galérer. Et en fait, c'est pour ça que je me permettais de te lancer là-dessus, parce que je trouve que c'est déjà une vision du travail qui est intéressante. Et effectivement, comme tu dis, il y a du sacrifice derrière. Et je te juge pas du tout, parce que si t'as un peu écouté mon histoire, franchement, je viens vraiment de là. Mais sauf que moi, j'aurais bien aimé, à 28 piges, qu'il y ait un connard de 15 ans, 18 ans de plus que moi qui me dise « T'es sûr que t'es obligé ?» Mon mentor, là, mon vieil associé, là, lui, il était dans le même bateau. Il était là « C'est normal, faut que t'en chies !» Moi, j'étais là bah, « Très bien, alors on y va, alors !»
Ah, je me suis peut-être mal exprimé, alors tu vois, c'est cool d'en parler. En fait, je dis pas que j'ai besoin de galérer. Je pense que c'est par rapport aussi à ce que j'aime faire. Tu sais, on parle de création, tu vois, de créer de nouvelles choses. Parce que je reboucle avec ça. Il y a différents types d'entrepreneuriat. Tu vois, tu peux entreprendre en prenant une franchise, tu vois, et la développer, tu vois, avec quelque chose qui est déjà un peu packagé. Ok, c'est cool. Je vais monter un McDo, je vais monter un truc.
Oui, ça peut être une galère de monter un McDo.
Ouais, ça peut être une galère aussi. Ouais. Mais je veux dire,
c'est pas rien n'est simple, je crois, d'une manière générale.
Non.
Je trouvais ça intéressant que tu viennes projeter ça, tu vois, d'entrée, de venir projeter le truc de c'est difficile, voilà.
Ça vient à la phrase de si c'était facile, tout le monde le ferait, tu vois. Et pour être différent, je parle dans le business, pas égocentriquement parlant, enfin sur ma personne. Si t'as envie de monter quelque chose qui est voilà un peu unique, différent et tout ça, bah il faut cet effort là. Et moi je le fais avec plaisir.
Ok.
Tu vois, enfin c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est très marrant parce que j'avais plutôt des facilités à l'école, tu vois. Donc jusqu'au lycée, après j'ai fait un peu n'importe quoi au lycée. Après j'étais en études supérieures, donc d'ingénierie et tout ça. Là j'ai réappris à travailler, justement. Réappris à encaisser le travail, à me défoncer. Mais j'adorais ça, en fait, tu vois, de se dire, tiens, je faisais des cours, bon, je séchais pas mal parce que je faisais énormément d'associatifs. Qui était aussi une forme d'entrepreneuriat en soi, parce que j'allais chercher des sponsors, de la com, des trucs et tout ça, et j'adorais. Et en fait, je pense que ça vient de là, tu vois. Ça vient de là, du fait que j'ai pris tellement de plaisir à voir des actions concrètes, enfin, des relations, des mails, des meetings, du travail un peu acharné, se transformer en quelque chose de concret. C'est dans ma première boîte qui était de l'événementiel, tu vois, le sourire des gens, les souvenirs que tu leur crées, tu vois, la valeur ajoutée, comme on dit, tu vois, que tu leur apportes. Putain, tu te dis, c'est génial, quoi, tu vois. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu apportes de ma vision aujourd'hui d'entrepreneur, tu vois, avec un peu d'expérience quand même. J'ai plus envie aujourd'hui, pour reboucler avec le déclic, tu vois, de bosser comme un con sans m'assurer un petit peu mieux mes arrières, tu vois. Et quand je dis ça, ça veut dire que justement, quand t'es plus jeune, que tu démarres, généralement, t'as tendance à faire des énormes semaines et à pas compter ton effort, mais à te disperser, je trouve, tu vois. Et aujourd'hui, par l'expérience, par le fait d'être passé par aussi certaines étapes, je dirais que j'essaie de bosser un petit peu plus intelligemment, un petit peu plus smart dans la façon dont je fais les choses, tu vois, pour avoir le plus d'impact possible sur le business, tout en se respectant soi-même, enfin me respectant moi-même.
Okay.
ça passe par l'argent.
Tu te respectes plus, t'as l'impression, aujourd'hui ?
Oui.
Ok.
Parce que, voilà, on reboucle sur le déclic de dire, waouh, j'ai entrepris depuis des années, j'ai fait des boîtes innovantes, tout ça. Et encore une fois, ça, c'est pas pour me faire mousser, c'est juste la réalité. On a fait ce choix, on était plusieurs, tu vois, on a fait ensemble. Et à la fin, tu te dis, je me suis un peu mis de côté, quoi, tu vois. J'étais au service des projets, au service des boîtes, alors que j'aimerais un peu plus quand même que mes projets et mes boîtes soient à mon service. Tu vois, c'est un équilibre. Okay. Et ça passe pas justement par cet argent, de se dire, faut arrêter de se flageller, j'arrête de me flageller sur la rémunération, je vais chercher en levant des fonds, ma ligne sur mon compte de résultat, dire ok, moi je me paye 2 500 ou 3 000 euros net parce que j'entreprends cette aventure et il faut que je sois bien dans ma tête et ça passe par là. En fait, on évolue aussi, tu n'as pas les mêmes.
Oui, bien sûr.
Enfin, j'ai pas les mêmes, mais je pense qu'à peu près tout le monde, tu n'as pas les mêmes envies et les mêmes besoins à 20 ans. Quand j'ai commencé à entreprendre, qui est encore étudiante, la CAF, le crous, le truc, de toute façon, je m'en fous, j'entreprends.
Ouais, c'est sûr.
J'ai rien à perdre, tu vois, j'ai pas de femme, pas de gosse. Bon, j'avais toujours pas, mais pas la même chose. Alors que là, à 28 ans, t'as tous tes potes. J'ai tous mes potes. J'ai quand même pas mal d'entrepreneurs autour de moi, mais qui ont justement des boîtes plus classiques, tu vois, des agences, des trucs un peu plus automatiques en termes de modèle d'affaires, que si tu prospectes bien, après, bon, ça rentre, ils font leur thune. Alors moi, je suis plus dans la création, dans l'innovation, tu vois, des trucs plus compliqués, disons.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression quand t'en parles que c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, c'est facile de prospecter que de ce fait-là, il y a un truc un peu automatique. Putain, j'ai des amis qui ont des agences, c'est chaud quand même. Hein.
Alors, je dis pas que c'est facile.
Et c'est vraiment un métier en plus de service, je trouve. Et où, si tu grandis... En plus, c'est un truc fou dans ces boîtes, je trouve. C'est que si tu ramènes plus de business, t'es obligé d'avoir plus de gens. Donc, il y a un truc aussi où tu te retrouves à devoir gérer des masses salariales qui sont un peu... qu'il faut faire grandir, rapetisser en fonction des budgets que t'as et tout. Enfin, c'est humainement, c'est chaud, non ?
Ah oui, carrément. Enfin, je dis pas que c'est facile de d'opérer ces business. Je dis que le modèle du business, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport, tu sais, aux banques, etc., est plus
connu,
classique. Okay. Dans le, c'est une meilleure porte d'entrée. Si tu veux moins te casser les dents, si tu veux, que dire tiens, je vais créer un truc qui est totalement nouveau que personne n'a jamais fait. Ça ressemble un peu à des choses qui existent, mais parce que le besoin des utilisateurs, des clients ou de tel segment marché a évolué, on va le proposer, tu vois, le mode startup qui cherche son modèle d'affaires, qui innove et tout ça. Et ça, tu vois, c'est plus dur, tu vois, dans le, je parle au niveau du marché, du milieu, tu vois. Et donc, je sais plus où j'en étais, mes potes. Aujourd'hui à 28 ans, j'ai quand même pas mal d'amis, de familles et tout ça qui ont des revenus confortables parce qu'ils ont fait les études d'ingénieur aussi, de commerce ou autre. Et du coup, tu as leur niveau de vie, style de vie, tu vois, qui est un certain niveau. Et toi, j'ai pas envie de me sentir exclu. Excuse-moi encore une fois pour le tu. J'ai pas envie de me sentir exclu. Et c'est difficile. Aujourd'hui, pour moi, de me dire, je vais continuer au SMIC ou je vais continuer à me sacrifier trop, parce qu'il y a toujours, il y aura toujours un peu de sacrifice et je suis prêt à les faire, tu vois, sur la charge de travail, la charge mentale qu'il y a derrière, parce qu'on en parle aussi peu des fois. Mais j'ai quand même envie de les suivre un peu, tu vois, d'avoir de faire des beaux restos, de ce que j'ai. Au final, je me suis jamais vraiment flagellé, mais ça a une incidence sur mon patrimoine, si tu veux, qui n'a pas vraiment grossi.
Bah oui.
Et ça, c'est important pour moi aujourd'hui. Tu vois, quand on parlait d'avoir changé, tout ça, c'est de te dire, tu approches de la trentaine, j'approche de la trentaine, j'ai d'autres envies, il faut que je prépare un petit peu plus la suite. Et voilà, ça m'a suffi d'avoir fait ce que j'ai. Enfin, ça m'a énormément apporté ce que j'ai fait en termes de réseau, d'expérience, de sagesse limite. Tu vois, enfin, je sais pas si on peut parler de sagesse à 28 ans, mais quand même un petit peu, je pense.
En fait, t'as 8 ans d'expérience à 28 piges, donc c'est déjà énorme.
Voilà. après, je l'ai.
Tu t'es pété les dents. En fait, pour moi, c'est que ça.
C'est ça.
C'est juste l'expérience, c'est la somme des moments où tu t'es pété les dents, quoi. Tu vois, donc.
Exactement. Et où t'as réussi au final aussi, parce que t'en tires les.
Oui, mais si tu fais que réussir, t'apprends pas grand chose.
C'est vrai, c'est vrai. Il faut apprécier les bas, tu vois, pour apprécier les hauts, surtout, derrière. Et voilà, j'ai changé dans cette façon-là. Okay. Et aujourd'hui, je suis plus en phase. Je pense que j'ai plus de sérénité pour mon futur d'entrepreneur.
Okay. Est-ce que je voulais te poser la deuxième question que je pose à tous mes invités sur ton premier souvenir en rapport avec l'argent.
J'en ai un.
Ouais.
Mais il est vieux. Hein. Mmh. Premier souvenir, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de batterie, comme je te disais, de musique. Je sais pas si j'ai dit batterie, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de batterie. J'aurais pu même faire carrière là-dedans. J'ai des potes qui jouent avec des grandes stars de la variété française et tout ça. Et je me souviens, j'avais 11 piges. Et mon prof de batterie me dit, tiens, viens faire l'intro d'un truc qui s'appelle Les Fous Chantants à Alès, ma ville natale. C'est dans les arènes d'Alès, il y a 5000 personnes. Il y avait, à chaque fois, il y a 1000 choristes, tu vois. Il y avait des fois Goldman, etc. qui venaient. Mmh. Bon, là, c'était un groupe corse pas mal connu. Et moi, j'ai fait l'intro de ça, 5 minutes, bon, après avec les répètes et tout ça. J'avais 11 piges. Et il m'avait filé mon chèque de 100 balles, tu vois, un cachet intermittent, si tu veux, avant même de jouer. Genre, moi, j'étais là, en mode, j'ai mon chèque. Et je peux l'encaisser. Et donc, direct, je me suis acheté une cymbale, tu vois, pour ma batterie, tu vois.
Et voilà,
j'ai réinvesti direct. Bah, quand t'es jeune et tout ça, enfin, quand j'étais jeune, après, à chaque fois que j'avais un peu d'argent, bah, je mettais dans ce genre de truc. Comme, à mon avis, beaucoup de monde ont fait autour de leur passion. Et ça, c'était vraiment le premier souvenir. Et ça a continué comme ça sur quelques dates après, tu vois, dans des fêtes l'été, tout ça, faire des petits cachets comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, c'était des boulots d'été, du BTP, des trucs comme ça. Et voilà, c'était des beaux souvenirs.
Où tu as gagné, tes premiers sous, finalement.
Ouais, les premiers sous. Okay. Après, j'ai un souvenir un peu qui fait vraiment miroir à ce que je vis aujourd'hui. C'est que j'étais à l'INSA, donc l'école ingé, et je trouve un stage tout seul, mais vraiment sans réseau, sans rien, parce que des fois, il y a du piston, des trucs, chez Rolex. Tu vois, parce que j'aimais bien les montres et les voitures, un peu cliché du mec et tout ça, mais bon, moi j'assume. Aujourd'hui moins, parce que j'ai évolué, mais
personne
en tout cas...
te juge.
Non, mais bon, il y a peut-être d'autres choses plus importantes dans la vie, tu vois, quand tu regardes aujourd'hui, moi j'ai changé sur le sens et tout ça, bref. Et je fais ce stage, tu vois, et je kiffe. Tiens, je reçois une fiche de paye, juillet 2015, je m'en souviens toujours. Net, genre net d'impôts de tout ce que tu veux en euros, c'est-à-dire 3200 balles, tu vois, pour un stage. 3200 euros, tu dis waouh, genre stagiaire et tout ça. Et le mois d'après pareil, tu vois, c'était un stage court. Et quand tu regardes ça, même si au final j'aimais, tu vois, cette position, hein, qui était limite ma vraie position salariée dans un grand groupe, si tu veux, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure,
par rapport à tes études, oui, t'aurais pu gagner ce genre de...
Ouais, quand t'es employé là-bas, après c'est plus du 6-7 000 net par mois, quand tu commences et tout ça, tu vois, enfin 6 000, on va dire. Et à côté, quand j'ai fait le choix, tu vois, de dire j'annule un stage, si tu veux, chez une autre maison horlogère un an après, pour faire un stage dans le sport automobile chez un pote qui a une belle boîte, qui va m'apprendre des choses pour monter ma boîte de sport auto, mais où t'es payé 600 balles, et ensuite, bah, toi, tu vas monter ton truc, enfin, je monte mon truc avec un associé. Et on lève un peu des fonds, on y arrive, tu vois, c'est déjà une super victoire. Mais après, on se paye le SMIC, tout ça. C'est gros, gros, gros écart. Mais j'aurais fait la même chose dans 100% des cas. J'aurais pas changé.
T'aurais rien changé.
J'aurais rien changé, tu vois.
Ok.
Voilà, pour juste des petits souvenirs par rapport à l'argent.
Ouais, c'est cool. Parlons de tes parents, si tu veux bien. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit tu as été... éduqué par rapport à l'argent, justement. Donc, tu disais, tes parents, ils faisaient quoi exactement ? Ils étaient...
Mon père était chef mécanicien dans les mines à découvert dans le sud de la France.
Okay.
Et ma mère était secrétaire de direction. Elle est toujours, d'ailleurs, bientôt à la retraite,
okay.
Dans la fonction publique.
Ok. Voilà.
Donc, classe moyenne, on va dire,
ouais.
dans un endroit, donc vers Alès, dans le Gard, qui coûte pas très cher à vivre. Mon père très bricolo, très débrouillard, tu vois, qui est justement ça. Je pense que c'est très lié à la relation à l'argent. Mmh. Ou... toujours dans les bons plans, tu vois. Des bons plans, aller au marché aux puces, chiner les outils, les trucs, tu vois, pas cher, mais de qualité, très gadget, mon père. Ma mère qui dépense correctement, tu vois, par rapport à son plaisir, à nourriture, habillement, etc. Et vraiment, on a jamais manqué de rien, tu vois. Enfin, on était pas riche, mais les consoles de jeux, les, tu vois, j'avais un quad parce que mon père était on a la montagne juste derrière, tu vois, donc on faisait du quad, piscine à la maison, etc. C'est mon père qui a tout construit avec sa famille et tout ça. Donc, très débrouillard, tu vois, dans l'approche, pour justement avoir un niveau de vie au top. Mais sans trop dépenser, tu vois. Mmh. Enfin, les bons plans, les échanges, les trucs.
Et c'est quoi les petites phrases que t'as entendues par rapport à l'argent quand t'étais enfant?
Tu me prends de court. Parce que je sais pas s'il y en a, tu vois. Enfin, okay. On parlait pas trop d'argent. Pour tout te dire, et si mes parents écoutent, je vous embrasse, mais c'est moi, un moment, quand j'avais peut-être 16, 17, 18 ans, tu vois, qui suis rentré dans leurs finances, tu vois, en mode bon, comment vous gérez papa et maman, en fait vous faites quoi et tout ça, et donc je les ai même aidés, tu vois, à optimiser des petites choses.
Okay.
Pas qu'ils le faisaient pas spécialement, dans le sens où ils faisaient quand même les comptes et tout, mais j'ai pas une famille, je sais pas si j'ai une famille où on peut dire que l'argent était tabou. Peut-être
Ouais, on en... Vous en parliez ou vous en parliez pas? Tu disais qu'on vous en parliez pas, donc pour moi, si t'en parles pas, c'est tabou.
Ben, en fait, je sais pas la notion de tabou, tu vois, dans le sens où c'est... En fait, on peut en parler, mais c'est juste qu'on n'abordait pas ça, tu vois. C'est pas...
Y a un tabou où ouais, c'est peut-être interdit, tu vois, donc, et il y a le tabou où, en fait, on n'en parle pas, plutôt par omission, quoi, tu vois. Il y a un côté...
En vrai, c'est peut-être tabou alors.
Quand ils sont venus, quand tu leur as dit moi, comment vous fonctionnez et tout, ils ont ouvert leur fiche de paie, leur salaire, sans aucun. Oh, ouais, donc c'est plutôt détendu. C'était pas non,
mais,
c'est
mais
pas
on a, mais on en parlait pas, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était pas voilà, plus tard, tu vois, quand tu me parles de discussion, plus tard, gagne de l'argent comme ci, comme ça et tout ça. Ils voulaient qu'on... J'ai une relation très bizarre avec ça, tu vois, parce que j'ai des parents qui était pas entre guillemets ambitieux, c'est-à-dire, tu vois, qui avait pas le truc de dire fais médecin, fais machin, ça pour les enfants, je parle, tu vois, qui était très protecteur et justement plus fais ce que tu veux, tu vois,
fais ce que t'aimes,
et fais ce que t'aimes, et ça c'était génial, tu vois. Enfin, moi je les remercie d'autant plus par rapport à ça, mais justement j'étais très autonomie qui vient peut-être, tu vois, de parents ou du mon côté paternel, justement très bricolo, très débrouillard. Moi je l'ai peut-être plus assimilé d'un côté intellectuel, ça, que manuel. À dire, bah, en fait, je trace ma route, tu vois. Enfin, je vais me débrouiller, tu vois. Je vais me débrouiller. Je suis pas trop con, en tout cas, j'espère. Enfin, voilà, à l'époque, tu vois, j'avais des bonnes notes, des trucs, tout ça. L'école, j'aimais bien aller. Enfin, j'étais toujours sorti en premier parce que, bon, l'école, c'était bien, je faisais mon truc, j'avais des bonnes notes. Et ensuite, bah, moi, je voulais jouer au jeu ou faire mes trucs, tu vois. Okay. Lire Auto Plus pour en apprendre plus sur les bagnoles, tu vois, ce genre de trucs. Okay. Mais j'ai pas été éduqué par rapport à l'argent. Mais moi, je me disais, j'ai envie d'avoir un niveau de vie correct, tu vois. Je veux faire peut-être mieux que mes parents, tu vois. Ça, on n'en parlait pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème à en parler, tu vois, de se dire, ils n'ont pas fait beaucoup d'études et tout ça. C'était une autre époque aussi. Ils ont fait des choix. Moi, j'ai plutôt envie de faire un métier intellectuel, de cette notion de liberté, tu vois, de gagner un peu d'argent pour faire des projets, pour créer, pour... notion peut-être que je n'exprimais pas comme ça à l'époque, je pense, mais c'était ça qui était sous-jacent. Et donc, ce n'est pas eux qui m'ont mis sur une voie ou une autre.
Okay.
Tu vois? Par contre, ça m'a aidé de voir ce qu'ils gagnaient, comment ils géraient l'argent à un moment, tu vois, plus adolescence et pré-adulte, qui m'ont dit, moi, je veux faire les choses peut-être un peu différemment.
Et comment? Quand tu disais différemment? C'est quoi les choses où tu disais non, mais pour moi ça fait partie d'un chemin assez cool de regarder je sais pas l'éducation de tes parents, enfin tout ce que tes parents t'ont appris, et te dire bon, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins bien que je vais peut-être mettre de côté ou je vais essayer de faire différemment, quoi.
En fait, j'ai envie d'être comme eux. Je pense que je suis pas mal, tu vois, sur les valeurs, sur la façon de fonctionner, tu vois. C'est des personnes extrêmement intègres, très honnêtes et tout ça, et je pense que j'ai pris ça aujourd'hui, je l'espère en tout cas, tu vois. Mais à côté, être plus dans la notion long terme, tu vois. Mes parents n'ont jamais été long terme dans les investissements, dans la façon de fonctionner. Tu vois, ils ont regretté de ne pas avoir acheté un appartement quand je suis monté à Lyon, parce qu'au final, j'y suis resté, tu vois. Là, ça fait 5 ans que j'y suis revenu, mais j'y étais pendant 5 ans et toujours quasiment au même endroit, tu vois. Et ils se sont dit, ah, tu vois, on n'a pas eu le flair, tout ça. Et donc...
je pas pense eu le flair ou pas eu l'éducation qui allait avec, en fait.
Exactement. Parce que... Exactement. C'est une histoire d'éducation de financière, tu vois. Et je pense que ça manque beaucoup d'ailleurs en France, ça, aujourd'hui. Et merci de faire ce podcast, de se dire que les investissements aujourd'hui, moi j'ai un paradoxe de fou, de j'ai pas beaucoup d'argent, mais je dis à tous mes potes, à mon ex, à ma famille et tout ça, dire voilà, vous pouvez investir comme ci, comme ça, sans faire de comment dire, l'investisseur de comptoir, des choses simples, classiques. Après, c'est à leur bon gré, tu vois, des assurances vie. En tout cas, de les éduquer un petit peu sur qu'est-ce qui existe. Tu vois, il y a Snowball de Juan Lopez qui est sorti il y a quelques années, tu vois, qui est une super newsletter, tu vois, qui peut aider des gens, tu vois, à comprendre un petit peu mieux ces mécaniques-là, des intérêts composés, des trucs. Et dire, voilà, votre retraite, aujourd'hui, tu commences le boulot, t'as 20 ans, 21 ans, 22 ans, bah tiens, si tu mets 100 euros, puis 200 euros, puis 300 euros par mois sur tel ou tel support, bah sur 30, 40 ans, regarde ce que ça peut donner.
Et tu le fais pour toi ?
Bah moi je l'ai fait, mais à très très petite échelle, parce que justement j'ai pas eu les revenus, parce que voilà, je me suis flagellé, j'ai fait des choix que j'accepte, mais aujourd'hui j'ai envie de faire les choses différemment, parce que je joue un jeu différent aussi, ça j'ai appris. Tu vois, je sais pas si t'as lu le Psychology of Money de Morgan Housel, voilà. Et moi il y a une phrase qui m'a marqué de fou.
Alors c'est un pour expliquer un peu aux gens, mais c'est un bouquin sur justement la psychologie de l'argent qui regroupe vachement finalement plein de choses qu'on fait dans ce podcast, qu'on raconte, qui est devenu un best-seller aux États-Unis et qui est traduit, je crois, en France.
La psychologie de l'argent,
tout simplement.
Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, tu vois, dans les livres généralement, tu sais, t'as pas beaucoup de choses que tu retiens, mais c'est sache à quel jeu tu joues, tu vois. Et ça, moi, j'ai regardé ça, et c'est vrai que je me suis dit, bah ouais, moi je joue le jeu de l'entrepreneur, justement, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de j'ai envie de prendre un revenu qui est correct, et si jamais ça marche, par rapport au type d'entreprise que je monte, innovation, etc., bah peut-être qu'un jour je ferai une grosse culbute. Parce que c'est ce que je sais faire, en fait, au final, tu sais, comme un médecin limite, bah, qui sait faire son métier, et ensuite va gagner X, puis Y, etc., en fonction des années où il monte. Bah moi je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'aime faire, donc je l'accepte. J'accepte de jouer ce jeu, d'être créatif, de monter ce genre de projet et d'avoir la... Je ne sais pas si c'est universel ou pas, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas l'équation économique qui va avec. Le potentiel de gain à un moment, le revenu qui est un peu fluctuant, qui n'est pas le plus haut possible au début, tu vois, parce que bah, il faut faire démarrer les projets, etc. Tu
n'as pas de problème à gagner de l'argent ? Beaucoup d'argent ?
Non, okay. Moi j'aimerais beaucoup.
Non mais... Okay.
J'ai fait des mois de freelance aussi, tu vois, j'ai fait du freelancing où j'ai fait rentrer 8000 euros net par mois pendant 2 mois, tu vois. Ça c'était assez court parce qu'au final c'est pas ma vocation, tu vois, j'ai pas aimé être prestataire de d'autres personnes, okay. À bosser pour, tu vois, Sanofi, machin, tout ça, ouais, cool, tu vois, mais pff, ça me fait chier, tu vois, enfin c'était pas mon truc. Moi ma zone de génie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est je me répète depuis 10 fois, mais créer des trucs, tu vois. Et quand je l'ai compris, tu vois, on rebook par rapport à tout à l'heure, quand est-ce que tu as changé et tout ça, et c'est lié à mon enfance, à la musique, à plein de trucs, tu vois, cette notion d'artiste, enfin ouais, d'être artiste, d'être dans l'expression de soi-même par un support. Et au final, moi j'ai changé de support, c'est-à-dire c'est plus la batterie, c'est plus ce genre de truc, et c'est l'entrepreneuriat, tu vois.
Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Mildred, qui est sorti il y a quelques semaines, là, à l'époque où cet épisode sortira sans doute. Mais Mildred raconte qu'en fait, elle a du mal à associer le fait de gagner de l'argent et voire beaucoup d'argent avec le fait d'être artiste, parce qu'il y a un truc où la passion finalement est censée être rémunérée, et donc devenir te rémunérer en termes d'argent, c'est plus compliqué. T'as l'impression d'être là-dedans ou t'es assez à l'aise avec ça ?
Non, moi je suis très à l'aise avec le fait de gagner de l'argent.
Okay.
C'est juste que...
Beaucoup plus d'argent que tes parents, t'aurais aucun problème avec ça vis-à-vis d'eux et
non.
Tout ?
Non, j'ai aucun problème à gagner de l'argent. Par contre, je sais que...
T'as entendu ce que j'ai dit ?
Beaucoup plus d'argent que mes parents.
Que tes parents.
Non, j'ai zéro problème avec ça.
Ok.
Je pense qu'ils seraient très fiers et moi je leur paierais des trucs si jamais après. Enfin, moi je leur ai dit, hein, je suis un peu vache, attention, hein, ça, il faut prendre avec des pincettes, mais je leur ai dit, oh, vous voyez, moi quand je serai vieux, et vous serez vieux, moi je vous paierai les pads, ne vous inquiétez pas, j'aurai de la thune. Enfin, c'est pour les charrier, dans le sens où je ne m'occuperai pas de vous au quotidien, quoi.
Ouais, ok.
Voilà, c'est entre nous, hein, il faut rentrer dans la. la sphère familiale pour.
Moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu.
Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, c'est une blague. Mais en tout cas, de dire que j'ai aucun mal à me dire que demain, j'aurai beaucoup d'argent.
Attends, c'est important parce que tu viens de dire un truc où tu t'as dit, en gros, plutôt que de les avoir chez toi à domicile ou.
J'ai envie de les mettre bien. Enfin, voilà, c'est. Okay. Et je parle d'EHPAD parce que c'est caricatural, tu sais, du troisième âge et tout ça.
Ouais.
Et, voilà. C'est pour les charrier, dire, oula, vous commencez à devenir vieux, hein, 65 et 62, un truc comme ça. 67, 62, du coup je les charrie un peu là-dessus quoi. Mais c'est dans le sens où bah, j'espère à un moment tu vas avoir une liberté financière et avoir gagné de l'argent. C'est ce que je te disais dans le fait d'en gagner beaucoup à un moment, mais après beaucoup peut se qualifier, tu vois, 500 000 ça peut être beaucoup, 1 million, etc. En fait l'échelle pour moi ne me permet, c'est un nombre de projets si tu veux, si demain j'ai 500 000 euros net parce que je revends ma, parce qu'en fait ça va être par ça que je vais gagner de l'argent demain, beaucoup d'argent.
C'est... T'as toujours ce truc de la martingale, hein. Tu m'en parles depuis le début, hein.
Ouais.
C'est le truc de ok, t'allais gagner de l'argent, beaucoup d'argent à un moment donné, quoi.
Alors
la culbute, tu m'as dit tout à l'heure.
Mais je dis pas que je vais le faire. C'est ce que je t'ai dit, c'est que c'est le jeu auquel je joue.
Ouais.
C'est en fait, c'est j'ai compris que c'était le jeu auquel je jouais.
Ok.
Voilà, c'est tout en fait. Okay. Et pour moi, c'est super important ça. C'est-à-dire que j'ai fait le travail de comprendre les différents jeux, c'est-à-dire bah tiens, il y a le jeu du salarié en finance qui gagne beaucoup d'argent, tu vois, il y a le jeu du salarié classique, je sais pas, qui fait de l'ingénierie comme les études que j'ai faites. OK, bah c'est quoi le lifestyle, parce qu'en fait l'argent au final seul, tu vois, si tu t'éclates pas dans ta vie, si t'es pas aligné et tout ça, ça sert à quoi?
Bah
je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Donc moi je me dis OK, quel lifestyle j'aime, tu vois, quel quotidien entre guillemets, parce que les jours sont différents, mais j'ai envie d'avoir quelle pression, quel en fait l'entrepreneuriat aussi c'est très lié aux rencontres que tu peux faire. C'est incroyable, tu vois, enfin moi ce que ça m'a ouvert comme porte et comme stimulation intellectuelle et se mettre au niveau aussi, tu vois, de certaines personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que toi, pas spécialement vieilles mais en tout cas expérimentées. Et c'est une école de vie, tu vois, en termes de personnel, pour quelqu'un qui est ambitieux, entre guillemets, comme moi, mais ambitieux dans le sens exigeant, tu vois, de dire, j'ai bien envie, il n'y a qu'une vie, tu vois, de monter un peu le niveau, de dire, tiens, je suis capable de faire ce genre de choses, et si demain je peux avoir un impact, tu vois, sur des gens par ce que je crée, bah, tant mieux. Et voilà, j'ai comparé les différents styles de vie, j'ai compris le mien, ce que j'aimais, et bah, si tu fais l'équation, dire, tiens, un jour j'aimerais bien gagner de l'argent, mais ce que j'aime c'est faire ça, bah, la façon de gagner cet argent, bah, ça va être de créer des boîtes, se prendre un salaire qui est correct, je l'espère, et si je génère pas mal d'argent avec les boîtes que je crée, bah, je prends un bon salaire, et après bah, peut-être que demain je serai racheté ou je ferai autre chose et je ferai cette fameuse culbute, tu vois. Mais elle sera peut-être pas nécessaire à ma vie. C'est juste qu'à un moment, bah, si je la fais, bah, c'est cool, on fera du give back, tu vois, pour faire un anglicisme, on redonnera à d'autres jeunes ou moins jeunes en investissant, en créant d'autres projets, tu vois, en faisant le bien autour de soi, en mettant les parents à l'abri. Tu sais, c'est un peu le truc de d'acheter la maison de ses parents, tu sais, avec les footballeurs et tout ça, souvent on entend parler, tu vois. J'ai mis la daronne à l'abri, tu vois, ce qui est plus ou moins vrai, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Moi, j'en ai pas besoin, mais c'est le jeu auquel je joue. Voilà.
Ok. Et t'arrives donc à te gagner, à te mettre de côté aujourd'hui, ou en tout cas à prendre d'entrée, genre, tu disais combien, 2500, 3000 euros par mois, et c'est un truc avec lequel t'es serein et t'es à l'aise?
Bah alors aujourd'hui, j'y suis pas encore. C'est ça qui est intéressant, tu vois, dans le cheminement de l'entrepreneur et toutes ces galères, c'est que qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, j'ai liquidé ma boîte. Quand tu liquides ta boîte, t'as rien. Rien, nada, tu vois. T'as pas de chômage. Si, il y a un truc aujourd'hui, c'est l'ATI, tu vois, si t'as fait plus de 2 ans, etc., aide des travailleurs indépendants. Je crois que c'est 800 euros pendant 6 mois, un truc comme ça. C'est une sorte de RSA. Ouais, c'est une sorte de RSA. C'est sous conditions particulières, il faut pas avoir trop gagné, etc. Enfin, voilà, tout le monde ne peut pas l'avoir. Et bon, je liquide, mars 2023, là, rien, tu vois, t'as que tes économies. Moi, j'avais une voiture de collection, si tu veux, donc je l'ai revendue pour avoir un peu de cash et tout ça. Et là, j'ai erré un petit peu pendant un moment. Je me suis remis en presta, tu vois, pour gagner, bah, tu vois, 10 000 euros comme ça en un mois ou deux, tu vois, avec des amis qui ont des boîtes, justement, de conseils, d'agences et tout ça. Donc, ce qui m'a permis de me payer, tu vois, plusieurs mois de ma vie et de réfléchir en même, parce que psychologiquement, le choc est super fort, tu vois, quand... En fait, quand tu es entrepreneur, il y a différents types d'entrepreneurs, je pense, mais comment je l'ai vécu moi et ce que j'ai partagé avec beaucoup d'amis, c'est l'incarnation du projet, tu vois. le fait que c'est ton identité. Comme un artiste, tu vois, qui incarne son art. Voilà. Mmh. En fait, quand j'ai liquidé, mais putain, je me suis dit, mais qui suis-je en fait? Tu vois, il y a un exercice qu'on fait à 60 000 rebonds, l'assaut dont j'ai parlé, c'est en fait, présentez-vous sans parler de votre boîte. Tu vois. Ouh là là, mais c'est compliqué. C'est super compliqué de faire ça, tu vois. Et j'ai été en quête d'identité pendant un certain temps. Et donc, d'avoir fait un peu de presta, ça m'a permis de mettre un peu de côté. Et ensuite, j'ai décidé de me dire, je me mets à la quête d'un nouveau projet qui sera peut-être à financer, justement, dur. Et donc, le salaire ne va pas arriver de suite. Et je n'ai pas travaillé pendant un moment et ça m'a ouvert des droits au RSA, etc. Donc là, j'ai vécu pendant un moment, si tu veux, pendant 6 mois entre RSA et ma thune personnelle, tu vois. Je pense que j'avais quelque chose comme... patrimoine total, j'ai aucun tabou dessus, et c'est ridicule, tu vois, mais c'est peut-être 30 ou 35 000 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Donc j'ai vécu dessus.
Et là, à 28 ans, c'est pas ridicule. Hein.
C'est pas ridicule, mais c'est pas non plus énorme par rapport aux études que j'ai faites, tu vois, aux choix, oui. Tu compares aux autres.
Par rapport à tes choix, c'est sans doute dans la lignée de ce que t'as décidé de prendre pour toi, quoi, tu vois.
C'est ça.
Mais par rapport à tes potes dont tu parlais peut-être tout à l'heure, qui ont le même âge que toi, qui ont fait les mêmes études que toi, sans doute, oui, que voilà. T'es loin, quoi.
Moi, je suis très loin, mais c'est pas grave, entre guillemets. Il y a juste un truc...
T'es sûr que c'est pas grave?
Ouais, parce que j'ai accepté le jeu. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas grave, il y a 6 mois, je t'aurais pas dit ça.
Ok.
Tu vois.
Okay.
Mais là, on est arrivé à un point aussi où je me suis dit bon, c'est j'ai envie de reprendre quelque chose. J'en suis prêt, tu vois, parce qu'il y a encore une fois la dimension psychologique derrière. J'ai toujours ce côté artiste, entrepreneur, tout ça. Donc, on va recréer quelque chose. Et
quand tu dis on, c'est avec tes associés, c'est
ouais,
ça.
Ouais, j'ai toujours voulu faire des choses, peut-être pas tout seul. Tu vois. Surtout sur ce genre de projet innovant et tout ça, et dans le métier, quand tu dois financer. T'es tout seul, c'est compliqué, tu vois. On dit vous êtes tout seul, mais si demain vous êtes plus là, etc. Être deux, c'est quand même un minimum. Et donc, à un moment, je suis arrivé là à me dire ok, c'est le moment. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai pas envie de tomber sous un seuil, tu vois, de patrimoine. C'est-à-dire, en fait, à faire du all-in, donc de tout mettre sur la table. Jusqu'à ce que j'ai zéro de patrimoine, c'est-à-dire vivre sur mes économies pour monter un projet pendant X temps, parce que j'ai déjà quand même... J'avais perdu de l'argent sur ma deuxième boîte, celle que j'ai liquidée. Tu vois, j'avais mis un billet de 20-25 au total. Ça fait un peu mal, tu vois. C'est tout ce que j'avais, parce que j'avais gagné un peu d'argent avec Sanofi, ce que j'ai dit tout à l'heure, du conseil. Ma première boîte, j'avais revendu des parts parce que j'en étais parti, mais c'était ridicule, entre guillemets. J'avais pris 20 000 ou 25 000 euros, tu vois, avec 5 ou 10 000 d'investissement à la base, tu vois, donc j'avais pas fait beaucoup, mais c'était pas grave. Enfin, vraiment.
T'avais fait x2, ce qui est quand même énorme.
Ce qui est bien, mais bon. Mais quand tu vois le travail, tu sais, des fois qu'on a fourni, on n'était pas encore rentable, on était presque rentable. Et je voulais partir parce qu'on n'était plus d'accord, donc je voulais que ça se fasse vite. 23, 24 ans, let's go, tu vois, on passe à autre chose. Sauf que le Covid est arrivé, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai fait autre chose. Et ce que j'allais dire, c'est que là, au moment où on se parle, donc je peux le dire la date, on est en mars 2024, je me suis dit bon, il y a quelques mois déjà, parce que le projet que je suis en train de mener a quelques mois, je veux pas refaire la même erreur, parce que pour moi c'était une erreur, tu sais, de mettre un peu tout ce que t'as, tu vois, dans un projet. Donc à côté, là, moi aujourd'hui je fais quelques prestats, je donne des cours, je fais pas mal d'interventions en incubateur, d'incubateurs d'entreprises, de start-up et tout ça, ce qui me permet de me rémunérer. Des petites missions aussi pour des amis entrepreneurs, tu vois, c'est toujours un peu l'histoire du réseau qui est intéressante pour gagner sa vie, qui me prennent du coup quelques jours par mois. Et à côté, je suis en train de financer ce nouveau projet en disant directement, dès qu'on aura financé, donc sous 6-9 mois, moi je prends 2500 euros net. Il n'y a plus de SMIC, il n'y a plus rien, on se respecte. Et même au final, ce que j'ai compris, pour ceux qui nous écoutent, peut-être ça leur paraîtra logique. Tu vois, un investisseur, ça, mais ça, quand tu es jeune, moi, je ne l'avais pas compris. En fait, il veut que tu te payes correctement.
Bah oui.
Parce qu'il veut que tu mènes ta barque correctement, justement, que tu sois full sur le projet, concentré.
Tu prennes soin de toi.
Exactement,
avant tout.
Tu prennes soin de toi, que tu as besoin d'aller chez l'ostéo, chez machin, chez bidule, tu puisses y aller. Voilà. Mais ça, tu vois, quand.
Besoin de beaucoup d'ostéo quand tu es entrepreneur.
Ouais, peut-être. Ouais. Ostéo et plein d'autres choses. Mais
drogue.
Justement, pardon. Moi qui n'ai pas eu cette éducation-là, tiens, en boucle, c'est très intéressant. Au final, c'est une phase d'introspection avec Fab Florent. J'ai pas eu cette éducation là, tu sais, de bien se payer, ou en tout cas, tu sais, d'avoir un salaire je sais pas dire correct, un truc, voilà, 2000, on va dire 2500 euros.
C'est un salaire correct, ouais, en France, quoi.
C'est ça, ce qui est un salaire correct.
Pour toi, par rapport à genre un G plus 5 ans d'expérience, sans doute, tu es très loin, tu vois. Tu pourrais gagner beaucoup plus en salarié.
Exactement.
Et tout. Mais effectivement, c'est un salaire correct.
Voilà, c'est un salaire correct. Mais j'ai pas eu ce truc-là par rapport à mon enfance et mes parents. Et en fait, tu te dis, ouais, peut-être que ça a joué, cette histoire d'enfance et de parents. Mais au final, attention, parce que mon associé de l'époque, qui a des parents qui est dentiste et tout ça, il était dans le même bateau que moi. Hein. On avait la même.
Mais ça n'a strictement rien à voir.
Peut-être, mais en tout cas, on était dans le même sacrifice, si on peut dire ça comme ouais. ça, tu vois, au niveau des finances de la boîte, parce qu'on avait peut-être aussi cette ignorance, ou en tout cas se dire, oh, on est jeune, bon, si on se paye pas beaucoup, c'est pas grave parce qu'on a pas de charge. Sauf qu'au final, après, quand tu liquides, justement, où que tu pars, c'est ça que t'as pas anticipé, tu sais, dans le long terme et tout ça. C'est en fait, tu te retrouves avec quasi pas de patrimoine. J'en avais quand même un petit peu. Mais tu te poses toujours la question de, je suis pas si à l'aise que ça parce que le temps de repartir.
T'as pas de chômage.
Ouais, t'as pas de chômage.
T'es pas à l'abri, quoi.
Et le temps de repartir sur quelque chose, tu vois. Moi, quand j'ai quitté ma première boîte, donc on est en février 2020. J'avais des projets événementiels qui n'ont pas pu se faire parce que le Covid est arrivé 15 jours après, c'était pas prévu, tu vois.
Bah oui.
Je veux dire, j'ai pas senti le truc dire, ah, il y a le Covid, je me barre, tu vois.
Personne.
Non, et la boîte existe toujours en plus, donc tant mieux pour eux. Et ils ont fait une belle montée après. Mais j'ai mis 6 mois, vraiment, allez, 5-6 mois, à me mettre en presta et à trouver des vrais clients pour me rémunérer correctement, tu vois. Donc j'ai aussi vécu sur mes économies pendant un moment. Donc c'est, tu vois, le temps de repartir sur des choses, tu vois, tu te dis, j'ai peut-être un peu de patrimoine, mais je sais que ça va pas être facile et que ça va repartir parce que je voulais pas être salarié aussi. Tu vois, j'avais pas cette parce qu'il y a une histoire de liberté, c'est qui est pour moi c'est fondamental. Tu m'as parlé, qu'est-ce que l'argent, c'est quoi, ou même l'entrepreneuriat, parce que je fais la corrélation, c'est la liberté, c'est le, et ça, moi, c'est pour rien au monde, je reviendrai à ça. Je préfère galérer mais avoir ma liberté, tu vois, être là avec toi aujourd'hui, tu vois, à 10h30 du mat, je m'en fous, je fais ce que je veux, tu vois. Et je dis pas ça dans le sens où je suis rebelle et quand après t'as des salariés, quand tu montes une boîte et tout ça, après il y a quand même de la structure et tu dois être présent. Non, mais je veux dire, par là,
moi je me suis fait vraiment niquer la gueule à ce jeu-là, c'est-à-dire que j'étais trop présent au bureau parce que j'avais des salariés et qu'il fallait que je sois là quand mes salariés étaient là.
Moi non.
Débile, c'était complètement con.
Non, mais du coup, tu fais un peu ce que tu veux et c'est ça qui est incroyable. Parce que, en fait, quand t'as la conscience de ça, moi je trouve que tu t'adaptes. C'est-à-dire que je suis pas, en tout cas, je me considère pas comme un wantpreneur. Tu sais, il y a des fois des gens, c'est un fléau même, pas pour être dans un peu le milieu des incubateurs et tout ça, ce qu'on appelle les start-up managers, ceux qui gèrent, tu vois, les start-up ou en tout cas les jeunes entrepreneurs. Jeunes, pas par l'âge, mais par leur expérience l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui veulent le lifestyle, justement, tu vois, qui veulent le style de vie, le fait de, ouais, j'entreprends, je crée des trucs et tout ça, mais qui ont peut-être pas la conscience de ce que ça demande, tu vois, en termes de charge mentale, de tout ce que t'as à gérer, parce que tu dois être tellement polyvalent de faire ce genre de choses. Et juste pour pas être trop long, tu vois, je pense que je suis vraiment un entrepreneur parce que j'aime créer les choses, je suis pas un entrepreneur. Et j'en ai accepté les conséquences. Donc quand je parle de liberté, bah en fait, c'est de dire, ouais, je peux être là aujourd'hui à 10h30 et tout ça, mais je sais que je compenserai un moment parce que j'aurai peut-être du taf et que je bosserai tard ou je bosserai un peu le week-end. Tout ça. Après, aujourd'hui, j'équilibre ma vie. Ça, c'est un des apprentissages de ces derniers temps. C'est bosser plus smart, tu vois, de dire. Il faut toujours beaucoup bosser, mais peut-être plus smart avec les outils digitaux, l'IA, on peut en parler. Mais ouais, voilà. Quand tu connais ce que ça implique, niveau argent, niveau style de vie et tout ça, tu t'adaptes et bon, après tu bosses, quoi, enfin, tu te démerdes.
Ok, donc là t'es reparti sur un projet.
Ouais.
T'es confiant?
Ouais.
Ok.
Ouais, j'ai mis du temps à le sortir. Là on parle d'un projet du coup de centre de loisirs pour les enfants, les familles, autour de tout ce qui est activité manuelle.
Okay.
Donc pour créer des vrais centres où tu vas venir amener tes enfants, donc plutôt de 6 à 11 ans, ils auront des ateliers de cuisine, de bricolage, d'art, de médias, de sciences, il y aura un café-resto sur place, des espaces événementiels, etc. Enfin vraiment quelque chose qui d'abord va démarrer à Lyon, ensuite on va se développer dans d'autres villes. Moi je suis ultra aligné avec ça, ça a du sens, tu vois, pour le futur, pour faire un peu sortir les enfants des écrans, leur faire des choses avec les mains, tu vois, des ateliers manuels. et surtout en fait proposer une offre toute l'année pour parce que les parents cherchent ça, sauf que les offres elles sont très faibles ou alors très saturées, les horaires sporadiques, enfin genre c'est pas très structuré comme comme offre, et il faut un peu mettre tout dans un même lieu, et c'est ce qu'on va faire avec une belle marque et un concept novateur. Mais voilà, ça prend du temps, il faut le financer, etc. Mais moi je suis zone de confort là, mais je là tu me vois, tu vois, je suis bien. 3-4 mois, j'étais pas encore aussi bien, tu vois. J'étais pas dans la même truc.
Parce que t'as retrouvé un truc, c'est ça?
Ben, j'ai retrouvé le truc. À côté, j'ai trouvé mon équilibre aussi, c'est de dire, ok, comment je finance ça un peu, tu sais, ces mois de développement. Ben, je fais un peu des prestats à côté, en plus sur des trucs que j'aime bien faire, tu vois, donner des cours, faire du coaching d'entrepreneur et tout ça. Et c'est parfait, tu vois. Enfin, là, je suis dans mon élément.
Ah, bravo, Morgan.
Merci.
Je te souhaite le meilleur.
On espère. On fait tout pour, en tout cas.
On espère, oui. En tout cas, tu espères.
J'espère. Mon associé espère aussi. Mes parents espèrent aussi.
Tes parents aussi?
Non, ils me laissent faire. Ils n'ont pas de mal avec ça. C'est peut-être un mot de fin.
Tu fais tout ça pour que tes parents soient fiers de toi?
Il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai envie d'être fier de moi aussi, je sais pas. Un petit peu d'ego là-dedans quand même, de te dire, tu sais, tu viens de pas grand-chose, tu viens d'une classe moyenne, d'une ville où il y a pas mal de chômage, etc., où t'es pas destiné à faire ce genre de truc, et c'est plaisant de se dire que tu peux y arriver, quoi. Que je peux y arriver. Mais ma famille a toujours été là aussi, ce que je voulais dire, peut-être pour la fin et tout ça. Ça, c'est un truc important, si je peux donner un conseil, faut pas hésiter. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, je pense à demander de l'argent, peut-être, tu vois, à des proches, à de la famille, tout ça.
T'as demandé de l'argent, toi?
Ouais.
Mais c'était c'était facile pour
toi? En fait, au début, ça l'était pas. Mais je pense que... Enfin, il y a beaucoup de gens, tu vois, pour en avoir parlé, qui sont dans le « Ah, la famille, les trucs, tu sais, demander de l'argent, investir dans une boîte et tout ça. » Mais il faut bien expliciter les termes. De se dire « Si c'est de l'investissement, c'est de l'investissement. » Et donc, tu peux le perdre. Mais tu le fais en connaissance de cause pour investir. Par contre, si c'est de l'argent pour t'aider dans la vie personnelle et qui c'est un argent perso, c'est un autre mindset. Mais à des moments, j'en ai eu besoin. Tu vois, j'en ai eu besoin. Tiens, j'ai besoin de 1000 balles, tu vois. Parce que je sais qu'il y a tant qui va rentrer, mais c'est dans un ou deux mois. Et là, j'ai besoin, tu vois, de parce que sinon, c'est peut-être de l'argent, il est dans une voiture ou un truc, il n'est pas liquide, tu vois. Tu peux pas le sortir, donc j'ai besoin là. Et j'ai pas hésité à des moments, tu vois, pour en avoir parlé, c'était avec mon premier associé à l'époque, on s'est pas payé pendant un moment. Bah, d'aller voir parents, grands-parents, cousins, machin, amis, même des gens qui m'ont proposé, mais j'ai dit non à la fin parce que je voulais pas non plus avoir de la dette, même morale, tu vois, parce que s'ils me l'avaient donné, j'aurais même peut-être pas voulu le prendre. Dans le sens où j'avais pas besoin de. Tu demandes à 10 personnes, si les 10 te disent oui, peut-être que les 10. Enfin, t'as pas besoin des 10 qui te prêtent ou donnent de l'argent, c'est ce que je veux dire.
Ok.
Donc la famille a dit oui direct, donc j'ai privilégié ça, voilà. Mais j'ai pas eu de mal.
Ok.
Et je pense que c'est important d'en parler, d'argent, justement. Que des fois, c'est la merde. Et qu'il faut...
C'est la galère.
C'est la galère. Mais si tu te donnes, tu vois, si t'es un galérien, que tu fais rien, entre guillemets, bon, et que les gens... c'est pas une critique. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens, la famille, etc., qui peuvent parfois avoir un avis jugeant, ou en tout cas de dire... Ouais, si je te donne de l'argent pour aller boire des coups ou ce genre de choses, c'est peut-être pas le but, tu vois. Je parle de donner, peut-être pas de prêter, tout ça. Alors que là, il voit que tu fais tout. Enfin, on avait quelque chose de très concret sur la première boîte et tout ça. Et donc, ça aide, tu vois, à se faire aider.
Bravo, Morgane.
Merci, Fab.
Merci d'être passé au micro.
Avec plaisir.
Je te souhaite tout le meilleur.
Pareil pour toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.